dans ces périodes. Ah, oulala, voilà. Ah, bah on a dû faire un blanc terrible alors, du
coup. Bah moi non, parce qu'on m'entendait, mais toi on t'entendait pas.
D'accord, donc bonjour à tous. Puisqu'a priori j'avais oublié de mettre mon micro. Il me semblait bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Déjà on n'avait pas de générique forcément. Ça a manqué un petit peu. Et puis voilà, donc on disait donc pour la revue de presse de ce jour, hein, sur Radio Canu, différents événements donc de justice en France, avec des trucs amende, des trucs sur
la Réunion, une histoire de t-shirt, des pieds saisis, voilà, c'est un peu l'époque, hein, c'est pour ça qu'on
voilà,
parle de ça en ce moment.
Et puis même des zones de guerre et de batailles diverses, parce que là aussi, dans les voleurs de cannabis, il y en a qui les surveillent et qui les protègent. Donc là aussi, deux petits trucs assez marrants. Sinon, évidemment, on parlera de mettre ou ne pas mettre les choses illicites, donc la prohibition et les trafics de drogue dans le
La prostitution.
Et la prostitution, voilà, pardon.
Dans le PIB.
Dans le PIB.
Les comptabiliser ou pas. Alors là, la Grande-Bretagne le fait, la France on le fait pas, on verra pourquoi.
On est le seul pays d'ailleurs, comme toujours, à faire des trucs un petit peu bizarres. Heureusement, on a la Tunisie où là il y a un petit nouveau.
Une nouvelle loi.
Voilà, une nouvelle loi, un petit nouveau. C'est vrai que c'est Ben Salah qui est le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme en Tunisie, n'est pas totalement inconnu. C'est quelqu'un qui milite depuis longtemps là-bas, et donc il va proposer une loi pour pour assouplir les peines de prison. Donc on va revenir là-dessus. On parlera aussi de la troisième conférence internationale sur les cannabinoïdes qui a eu lieu à Strasbourg, qui est passée quasiment inaperçue.
Non, qui n'a pas eu lieu, qui aura lieu.
Ah d'accord, c'est pour ça qu'elle est passée un peu inaperçue. C'est là que j'ai pas compris. Donc voilà, on discutera.
Bah non, t'as peut-être pas vu la date, c'est tout.
Voilà, j'ai pas revu la date. Et enfin un truc sur les biotechnologies. Et le business qu'il va y avoir là derrière, dont on parlera en fin d'émission. Un truc qui est assez marrant quand même sur la bioéthique, sur différentes petites choses dont on peut parler. Voilà un petit peu pour le sommaire. Là, on va partir un petit peu en musique, le tout de se reprendre légèrement, et puis on reprend le fil de cette. Émission.
Notre père qui est aux cieux dans un satellite à Merloc. Souvent je me suis senti curieux et pour tout dire ça m'interloque. Depuis déjà tout petit marmot éduqué par vos fans. Plutôt que tu es tous ces picots, je me suis juré d'être profane. Et peut-être que j'ai tort, mais c'est là un grand mystère. Je préfère les pétards du store au paternoster. Une lueur de lucidité un jour m'est tombée au coin de l'œil. Et je me suis questionné sur les fantasmes de mes aïeuls. Venez par colis postal, le temps désiré, un quotidien, hein. Le Claude du coin n'aurait pas tant la dalle. Les boulangers pioncerait le matin. Je ne roule pas sur l'or et je connais la misère. Je préfère les pétards du store au paternoster. Depuis que l'homme évangélise, parle d'amour et d'eau fraîche. On fait fortune dans les églises, tandis que d'autres sont à la dèche. Un petit aumône comme palliatif, on vous fait croire au paradis. Les résultats sont un petit peu tardifs, y'a pas de salut ici. Je ne suis point conquistador, je n'ai point l'âme guerrière. Je préfère les putains de l'histoire au paternoster. Le devoir de chasteté, pour toi c'est tout bénef. Ça ne suffit pas de coquifier ce brave charpentier de Joseph. Dans le tiroir, un polichinelle, c'est fou ce que Jésus crie. Mais c'est pas tout les jours en Noël, si je puis dire
Dieu merci.
Méfions-nous de l'eau qui dort et qui coule dans les bréviaires. Je préfère les pétards de Nestor au Paternoster. 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 Hey!
Et voilà, donc c'était Monsieur Riton, Pater Prosper. Voilà, c'était juste aussi un petit clin d'œil à tous les croyants et autres, d'où qu'ils soient. Un petit peu de athéisme n'a jamais fait de mal sur cette terre.
Oui, mais bon, même les athées, ils croient à des trucs qui sont pas bien rationnels, alors malheureusement... on n'a pas forcément de leçons à donner aux autres. C'est bien triste, oui. Mais c'est comme ça. Donc voilà, on va pour l'instant se concentrer sur la revue de presse de l'actualité cannabique et psychoactive générale. Donc cette semaine, pas mal de petits faits divers, un peu comme la semaine dernière à propos de... À propos de culture, de vol, de volets qui se mettent à choper les voleurs, voilà. Mais avant toute chose, on va se rendre un peu en Lozère.
Ouais, on va à Mende.
On va à Mende, ouais, au pied du palais de justice où, alors c'est dans 48info.fr, donc 48 c'est le numéro du département de la Lozère. Un petit journal en ligne, qui nous parle d'une manifestation pour la dépénalisation du cannabis. Qui ouais. Se déroulait le 1er octobre.
Le 2 octobre.
Ouais, le 2 octobre.
Octobre ouais. Il y avait une vingtaine de néo-sévenols, il marque ouais. le journal, occupaient les marches du palais de justice de Mende pour soutenir des amis en comparaison pour usage de détention de produits stupéfiants. Et ils étaient équipés de tables de présentation, flyers, banderoles, affiches. Et ils demandaient, quoi, leur slogan c'était halte à l'hypocrisie du droit français. Il se battait aussi contre la double peine, puisque de se faire arrêter comme consommateur
et de se faire ficher
oblige à se faire ficher peine, avec des empreintes génétiques.
Mais en
même temps, il y avait aussi des magistrats qui jugeaient une affaire d'homicide involontaire dans laquelle ce produit de stupéfiant était évoqué.
Pour une affaire d'accident de la circulation, en fait.
Oui, tout à fait.
Voilà. Et le conducteur présentait des traces de cannabis lors des faits. Voilà. Enfin, en même temps, pas parce qu'il se passe ça dans un tribunal qu'on n'a pas le droit de manifester devant, y compris pour la question du cannabis. Et on ne sait pas, en plus, le conducteur, s'il n'avait pas d'autres traces que du cannabis dans le sang.
Ouais, mais...
Enfin non, mais bon, c'est juste pour dire que dans l'article, on a l'impression qu'ils disent ils vont quand même pas.
Voilà, donc eux. Enfin bon. Non, mais dans l'article, ils expliquent que donc comme c'était décalé, que ça leur plaisait pas, et on leur a dit de partir, ils ont pas parti. Donc après, évidemment, les forces de l'ordre les ont délogés de façon un petit peu plus plus forcée a priori,
voilà.
Puisqu'il y a eu confronté à une brève résistance.
Voilà, voilà.
Donc voilà un petit peu ce petit fait divers, mais bon, c'est bien, Mende, ça bouge aussi. Je pense que petit à petit, le monde va se réveiller.
Le monde, oui. La France, je sais pas. Le monde, ça, on a aucun doute. Hein. On le voit bien depuis ces dernières années, là, notamment en Amérique du Sud, où il y a à plusieurs reprises, il y a eu plus de 50 000, voire plus de 100 000 personnes qui se sont réunis dans les rues pour protester contre des lois de prohibition et qui demandent un changement de politique. Enfin voilà, malheureusement en France on n'est pas des milliers, on est plutôt quelques dizaines quoi. Voilà. Et là
quelques centaines. Voilà.
Non, à Lyon, on était quelques dizaines. Et dans toute la France, quelques centaines. Dans toute la France. Aïe, aïe, aïe. C'est aïe, pas aïe, comme aïe, ça aïe. Qu'on va faire avancer les choses.
Bref.
Mais c'est pour ça qu'au lieu de se plaindre, je vous invite à venir nous rejoindre et à venir brailler voilà. comme avec nous. Donc, dans la rue. Voilà, c'est
de
tout,
toute hein. manière, comme partout, il y a plein de t-shirts qui font allusion au cannabis et qu'on rencontre régulièrement dans les rues. Alors là, c'était donc à Saint-Pierre.
À La Réunion.
En Réunion.
Donc en France. Pas en France métropolitaine, certes, mais
C'était quelqu'un qui comparaissait donc pour incitation à l'usage de drogue, et ceci parce que le prévenu, donc âgé de 27 ans, portait un t-shirt représentant une feuille de zamal.
Alors, petite précision, j'ai pas mis la photo. J'aurais dû la mettre en fait pour que tu la vois, parce qu'en fait c'est pas du tout un t-shirt avec une grosse feuille de cannabis en gros plan, comme là en tout cas on a l'impression. Pas du tout. En fait, c'est un t-shirt et je crois que c'est au dos. Il y a
un billet de banque, non?
Ouais, un truc qui ressemble un peu comme ça. Oui, voilà, un billet de banque. Et puis dedans, en pas très gros finalement, une feuille de cannabis. Alors déjà, le billet de banque sur le t-shirt est pas gros et la feuille est pas énorme non plus. Voilà. Mais en tout cas, ça a suffi pour avoir des ennuis.
Oui, c'est l'origine de l'affaire a priori. Donc là aussi, ça a été jugé le 2 octobre. Hein.
Mais bonne nouvelle.
À Saint-Pierre.
Bonne nouvelle, pour une
donc,
fois.
Donc, le procureur a requis à son encontre 300 euros, une amende donc. L'avocat du prévenu a mis en cause la commercialisation de ses produits. Et finalement, le jugement l'a relaxé.
Le juge a relaxé le prévenu.
Voilà, il a été relaxé.
Voilà.
Donc c'est quand même une bonne nouvelle pour la justice française.
Pour oui, alors visiblement deux poids deux mesures en tout cas, puisque bah en tout cas vu le problème là, il vaut mieux être jugé pour ce problème à La Réunion qu'être jugé à Strasbourg, voilà, comme ce fut le cas pour Bertrand Rambeau qui avait été arrêté au mois d'avril, pareil dans la rue avec un t-shirt où il y avait une feuille de cannabis pas très grosse non plus. Voilà, mais lui, il a pas été relaxé. Malheureusement, il a été jugé le 16 juin et il a pris du sursis, quoi. Mm-hmm. Mais bon, là, je sais pas, c'était pas dit dans l'article, mais en tout cas, bon, apparemment, cette personne n'a pas vu la police débouler chez lui pour voir s'il avait pas du cannabis, ce qui fut le cas pour Bertrand Rambeau. Voilà.
Autre affaire, toujours en France, cette fois en Bretagne.
À Banalec, près de Quimperlé.
Voilà. 72 pieds ont été saisis par les gendarmes.
C'est une quantité relativement importante, on va dire,
ouais.
Pour un particulier.
Des beaux pieds, a priori, hein, de 3,30 m de haut. 45 étaient plantés au milieu du champ de maïs voisin. Et après ça, le lendemain, ils ont fait des perquisitions chez trois personnes. Ils ont encore trouvé des graines, de l'herbe, des numéraires.
Alors, des numéraires, de l'argent en liquide.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et alors ça, effectivement,
ouais, je reprends ce qu'ils disent dans l'article.
Ça craint. Enfin, ça craint pour eux, quoi. Hein.
Donc là, c'est Ouest-France. Hein. On n'a pas cité la source.
Voilà. Mais voilà, effectivement, quand ils viennent chez vous, qu'ils trouvent tout ça et qu'en plus, vous avez du liquide... effectivement, ben là, à ce moment-là, les journalistes, plus rien ne les freine et pour dire que vous êtes un trafiquant.
Voilà. Donc a priori, il y en a un qui a reconnu les faits et donc l'article conclut les trois trafiquants présumés seront convoqués prochainement devant la justice pour répondre de leurs agissements.
Voilà. En tout cas, le troisième homme, âgé d'une quarantaine d'années. Placé en garde à vue et marqué « Il reconnaîtra les faits après quelques heures ». On ne sait pas quel fait il a reconnu. On ne sait pas s'il a reconnu la culture, la consommation, la vente. On ne sait pas. Mais dans l'article, on a l'impression que c'est des gros trafiquants. Alors ça, c'est encore...
72 pieds
Certes. Bon. Ça ne veut pas dire que lui, en tout cas, il les avait fait pousser du tout seul et ça veut pas dire que... Enfin voilà, en gros, c'est encore une fois, c'est...
Ah ben, il faudrait fouiller.
À l'arrache, quoi.
Il faudrait fouiller pour en savoir plus.
Bon, voilà, en tout cas, alors maintenant, on va aller au Pays Basque.
Voilà,
au Pays Basque,
Sud-Ouest.
Espagnol. Pays Basque, espagnol.
Ouais.
Il y a des individus qui ont eu la mauvaise idée d'aller voler des pieds de cannabis chez quelqu'un.
Ouais. Alors, je vais vous lire le titre quand même. Les pilleurs de marijuana violentés et abandonnés nus dans la forêt. donc ces trois gugus, voilà, mais a priori ils ont préparé leur truc en plus, c'est ça.
Oui, ils avaient préparé leur coup.
Donc c'est un trio donc qui devait se rendre jusqu'à la petite commune de Dima dans le nord de l'Espagne, commettre son larcin dans cette exploitation clandestine dissimulée dans une ferme perdue au confit de la campagne biscayenne qu'ils avaient repérée auparavant et reprendre l'autobus dans la nuit. Un truc bien prévu.
Ouais, voilà, ils avaient prévu. Ils volent et ils repartent en bus. Ouais. En bus. Avec des pieds, je sais pas où ils les auraient mis, mais bon, dans la soute.
Dans leur sac à dos.
Bref. Mais, ça s'est pas passé comme ça, apparemment.
Mais, a priori, alors qu'ils s'éloignaient de la serre, les sacs à dos remplis de plants de cannabis, les trois jeunes gens auraient ensuite été violentés, menacés par armes, puis abandonnés nus au milieu de nulle part. Donc l'enquête est toujours ouverte, mais ils ont quand même arrêté 6 personnes soupçonnées d'avoir agressé, menacé et abandonné nus ces trois jeunes. Voilà, mais a priori, ils étaient même peut-être plus que 6.
Ouais, bon, mais on ne sait pas si c'est forcément eux qui cultivaient les plantes en plus.
Après,
il est un peu vite écrit cet article, c'était dans Sud-Ouest aussi.
Ouais.
Mais bon...
On peut pas en savoir beaucoup, quoi. C'est des faits divers. On est dans des zones de non-droit, donc on se fait justice soi-même. Donc on arrive sur du n'importe quoi, évidemment. Et voilà un autre exemple. Alors là, c'est dans les Bouches-du-Rhône, hein, ils ont parlé de ça.
À Graveson.
Ah, attendez,
ça vaut le détour.
Ils ont débarqué comme des cow-boys, fusil à la main. C'est une scène digne du Far West qui s'est jouée là-bas. Donc justement à la Montagnette, exactement. Tout se passe dans l'après-midi. Trois individus font éruption sur le terrain de ce pavillon isolé. L'un des habitants, âgé de 31 ans, sort à leur rencontre. Un coup de feu retentit, il s'écroule, touché à une épaule par une décharge de fusil de sas. Le propriétaire sort des lieux armé d'un fusil. Âgé de 52 ans, il fait face aux trois assaillants.
Le Dauphiné.
Tourne les talons, suivi de près par le propriétaire qui ouvre le feu en leur direction à deux reprises avant d'être distancé. Un voisin, témoin des feux, se mêle de l'histoire. L'homme contourne le terrain et tombe nez à nez avec les trois fillards qui ouvrent le feu en le voyant.
Putain. Non mais sérieux, c'est un truc de fou.
Du coup, il est pas touché.
Ouais.
L'alerte est enfin donnée. En quelques minutes. Les gendarmes de la compagnie d'Alès encerclent le périmètre.
D'Arles, pardon.
Trop tard pour couper la route aux fuyards, ils ont disparu.
Ouais, ce qui est dingue, c'est qu'ils ont réussi à se barrer quand même.
Bon, bref. Donc du coup, les militaires, ils vont voir le blessé, forcément. Et ils y font une surprenante découverte. 41 gros pieds de cannabis prêts pour la récolte. Probablement la source du conflit. Voilà, donc le propriétaire, lui, a été placé en détention provisoire et le blessé est toujours quand même à l'hôpital.
Oui, il y en a un jeune quand même, hein, qui se trouvait également dans le pavillon et il était là aussi et il était dedans et il s'est présenté comme un cannabiculteur aux policiers, enfin aux gendarmes, et visiblement ils l'ont laissé libre. Ils l'ont pas poursuivi. C'est très ennuyeux, moi, je trouve, des histoires comme ça. Ah, très ennuyeux. Malheureusement, on serait dans un contexte, je dirais, d'une certaine ouverture d'esprit et de réflexion. On pourrait avoir des politiciens, des intellectuels qui s'expriment et qui disent raison de plus pour en finir avec la prohibition. Mais malheureusement, c'est pas ce qui va se passer, c'est pas ce qui est en train de se passer. Et quand on voit notre premier ministre, je pense que malheureusement, ça va contribuer à rajouter plusieurs coups de pression et d'accentuer la répression, la prohibition. C'est bien triste, mais bon, c'est comme ça.
Voilà, ben on va faire une petite pause musicale. On va s'écouter Trop de haine.
Ouais.
De Negusa Nagast. Hein, on en a besoin. Alors j'ai choisi ça un petit peu au hasard. Je l'ai pas encore écouté. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Juste sur la pochette, il y a un Gugus qui est habillé en vert.
T'aimes bien les Gugus, toi.
De Bob sur la tête. Il y a un soleil rayonnant et donc il sort de sa tête de milieu de tête de chambre et un panneau aussi avec marqué zone de paix, voilà. Et donc là on va s'écouter un Trop de haine alors. C'était Trop de haine.
Bien. Pardon. Eh bien, enchaînons. Parce que
enchaînons,
on est
directement.
On n'est pas en avance. Donc, voilà, la France refuse d'inclure le trafic, enfin l'économie de la drogue et l'économie du travail sexuel. On va dire ça comme ça. Plutôt que le trafic de drogue et la prostitution.
Ouais, parce que en fait c'est un truc européen, tout ça, ce truc, il faut calculer et les Européens ont décidé de mettre ça.
Bah, l'Union européenne, en l'Union fait, Eurostat, voilà. Qui est l'Institut européen des statistiques, en fait, veut
calculer les mêmes choses sur les mêmes bases et donc pour que chaque pays contribue. Ouais. En fond, sur les contribuer au budget européen, ça se fait en fonction de leur PIB, quoi. Entre autres, en fonction de leur PIB,
voilà,
ou de leur exactement de leur RNB,
revenu national brut.
Voilà, tout à fait.
Voilà. Alors,
qui est sensiblement le même.
Alors, juste pour finir, Eurostat, donc l'Institut européen des statistiques, avait donné aux États jusqu'au mois de septembre, aux États membres, pour intégrer justement. L'économie de la drogue et du travail sexuel dans leurs statistiques nationales. Donc, il y avait une recommandation, il fallait suivre. Et visiblement, tous les États ne sont pas d'accord, et il y en a bien un qui est pas d'accord, et on se doute bien lequel, bah, c'est la France.
Voilà. Alors, après, bon, ça a pas de, ces calculs, c'est de la stat, hein, ça a pas d'effet, différent sur la croissance. Sans rien d'autre.
Pas vraiment. Je suis pas tout à fait d'accord.
Les Anglais l'ont fait, donc ils ont trouvé que ça faisait 0,5% de leur richesse.
Oui, mais les Espagnols, eux c'était 0,85.
J'y arrive. Plus fort. Donc les Royaumes, donc pour 10,9 milliards d'euros pour le Royaume-Uni. Et pour, voilà, à titre de comparaison, tout à fait, l'Espagne, eux sont à 0,85, donc ce qui est beaucoup plus. Donc ça fait 9,2 milliards, quoi, ça fait la même somme, mais le PIB de anglais est plus important que le PIB espagnol.
Oui.
Qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, alors eux, ils avaient calculé plein de choses. Ils avaient mis, comme tu le dis, principalement la drogue et la prostitution, mais aussi la recherche et le développement, les équipements militaires, entre autres. Donc, ils ont rajouté quelques petites choses. Tout ce que ces instituts nationaux de statistiques ont estimé que ça jouait.
Bah, au niveau économique. Au niveau économique. Bah, par exemple, pour le travail sexuel, ils ont pris en compte le coût de la location des lieux, les achats de préservatifs et les vêtements de travail. Bref, le même genre de calcul et d'éléments qu'on peut intégrer pour le calcul d'une richesse produite pour une autre activité tout à fait banale, ou tout à fait classique, finalement.
Tout à fait.
Donc, bon, rien d'extraordinaire, hein.
Alors bon, ce qui est étonnant, c'est que la France là-dessus, elle est mal à l'aise vu qu'elle ne répond pas là-dessus. Donc,
mais pour une raison idéologique et que je connais bien.
Et voilà, qu'on connaît bien, tout à fait.
Qu'on connaît bien, oui, parce que pour le la drogue, c'est pareil.
Puisque on estime pour comptabiliser ces
richesses produites
ou pas ces richesses, tout retourne autour de d'un texte de loi. C'est celui que j'arrive pas à retrouver. Un texte de loi qui dit qu'on met dans ce qui rapporte tout ce qui est consenti librement. J'arrive plus à retrouver exactement la phrase. Et dans la prostitution, ils disent que c'est probablement pas vérifié ce consentement mutuel. Pour beaucoup de prostituées ou pour les prostituées, parce que évidemment ils exagèrent toujours, le pourcentage des gens consentants ou pas est toujours très compliqué à connaître un peu. Mais
ouais, surtout que
on met en exergue les quelques cas qu'on connaît de.
Ben oui, puis c'est comme si les autres gens qui travaillaient en dehors de la prostitution, eux, leur consentement était forcément avéré,
ouais. Oui, tout à fait.
Et pas pour les travailleuses du sexe, sauf que y a plein de gens qui travaillent dans l'économie classique et ils sont pas forcément d'accord. Leur consentement dans le cadre de leur travail est pas forcément non plus pris en compte. Voilà, quoi. Mais là, ça se discute pas. Vas-y.
Non, mais je ne sais plus où j'en étais.
Eh ben, on en était au consentement, voilà.
Au consentement, donc voilà.
Des activités
ça,
économiques.
C'était pour la prostitution. Et alors, sur l'alcool et le tabac, sur les drogues, ils disent sur la même chose. Hein. Mais le problème de la dépendance aux drogues, qui empêche de considérer leur trafic comme une activité mutuellement consentie, est un peu plus complexe. Oui. Voilà, explique un expert, parce que de fortes dépendances peuvent aussi apparaître avec des produits que l'on enregistre déjà en comptabilité nationale, l'alcool, le tabac ou les jeux. Pourquoi dès lors refuser aux drogues ce que l'on autorise aux jeux et à l'alcool ou au tabac? Voilà, donc ça c'est pour un petit peu les questions d'éthique qu'ils ont là-dessus. Ça n'empêche pas que comme par rapport aux autres pays, ça serait un petit peu... inéquitable si on calculait pas ça, puisque notre contribution est calculée là-dessus. Donc, ils ont gardé le revenu intérieur brut comme il est en France. Mais par contre, pour les statistiques d'Eurostat, ils ont donné le RNB, donc le revenu national brut, ou dans laquelle ils ont intégré donc quelques chiffres concernant quoi déjà.
Je sais pas où tu veux en venir en fait. Je suis un peu perdu.
Non, dans
je
ce
peux
qu'on
pas
a
t'aider.
Dans ce qu'on a rajouté dans le RNB par rapport au PIB, mais c'est pas très très grave. Je crois que la France a quand même plié les Chines sur les drogues qu'ils ont intégrées là-dedans. Je pense.
Disons que pour faire bonne figure, ils ont intégré tout ça dans leurs données pour les informations qu'ils transmettent à Eurostat. Mais en tout cas, ça reste absent du revenu national brut national.
Voilà, tout à fait.
Donc ils ont fait.
Mais uniquement pour les drogues, donc ils ont fait cette pirouette.
Voilà.
C'était ça que je cherchais à vérifier. Voilà, parce que bon, pour le
revenu,
pour la prostitution.
Voilà, intégrant uniquement les revenus des stupes, en effet.
Voilà. Mais pour la prostitution, là, pas possible.
Eh ben, pas tant que ça, parce que dans l'article précédent, justement, l'INSEE expliquait que pour les autres formes de prostitution. Donc ça veut dire en gros celles qu'on pense qu'elles sont relèvent pas de réseau et de traite des êtres humains. Donc pour d'autres formes de prostitution cachées derrière d'autres activités, ça c'était déjà pris en compte dans les statistiques officielles.
D'accord.
Donc une partie quand même de l'activité du travail sexuel, j'ai envie de dire nationale, c'est-à-dire exercée par des femmes ou des hommes qui ont la nationalité française, je pense que ça ils y intègrent, et notamment, alors moi ce que je comprends quand ils disent cacher derrière d'autres activités, c'est certainement des personnes qui sont déclarées aux yeux de l'administration comme des masseuses. Voilà, un peu ce que j'en pense, ou des personnes qui exercent des professions indépendantes et qui ne figurent pas dans les nomenclatures de l'INSEE ou du fisc. Voilà, ce que j'en connais dans le cadre de mon métier.
Voilà, sur la parenthèse, et pour revenir sinon donc sur le problème des drogues, donc bon, ça va pas avancer, ça va pas changer la face du monde s'ils intègrent ou pas cela. La seule chose quand même qui m'interpelle et qui me fait sourire, c'est que peut-être grâce à l'économie, on va peut-être prendre en compte économiquement ce produit. Et si l'économie s'en mêle, c'est peut-être aussi un pas vers la légalisation. Mais bon.
Bah après, quand on suit la suite, quand on lit la suite de l'article de Michel Henry, c'est pas pour rien qu'on demande aux États d'inclure ces activités-là dans leur PIB, RNB, tout ce qu'on veut. C'est qu'en fait. Il y a par exemple là, Ronan Mathieu, qui est le chef du département des comptes nationaux à l'INSEE, qui s'explique et qui dit par exemple, voilà, Eurostat considérait que le fait que certains pays incluent les activités illégales dans leur PIB et pas d'autres, nuisait à l'équité de traitement entre pays. Voilà un peu ce qu'il déclare. Or, on nous explique que le revenu national brut est utilisé comme une base fiscale pour calculer les contributions de chaque pays au budget européen. Et si les activités illégales, bah, elles figurent pas dans le calcul, ça réduit la contribution des États. Donc, ce dernier, donc Ronan Mathieu, qu'on poursuit et dit comme ça, là, pour pas encourir le reproche de ne pas inclure les activités illégales dans le revenu national brut par pur opportunisme fiscal, nous avons ajouté un correctif uniquement pour le besoin du calcul des contributions au budget européen. Donc voilà, donc deux manières de calculer, et notamment une pour Eurostat. Voilà en fait le pourquoi du comment.
Voilà,
ce que je voulais dire d'autre, il y avait encore un truc qui était intéressant. Donc voilà, oui, Ronan Mathieu, donc toujours le statisticien de l'INSEE, qui dit que voilà, sur la prostitution, il y a peu de chances que notre position évolue. En gros, ben, les prostituées sont des victimes et du coup l'activité et le travail en tout cas c'est pas consenti, c'est ça qu'il veut dire, et donc ils vont pas en tenir compte, ou hormis les activités cachées derrière quelque chose de légitime et qui sont en fait du travail sexuel, donc l'exemple mais minoritaire selon eux en tout cas. Par contre le cas du problème de la dépendance aux drogues, entre parenthèses, qui empêche de considérer leur trafic comme une activité mutuellement consentie, est un peu plus complexe. Voilà. Parce que, explique un expert, de fortes dépendances peuvent apparaître avec de produits, comme tu disais tout à l'heure, qu'on comptabilise dans l'activité, comptabilise dans la comptabilité nationale, voilà, je vais y arriver, donc alcool, tabageux, voilà. Bref. Comme quoi, j'ai trouvé cet article intéressant parce que ça montre que, ben, finalement, les discriminations, elles se retrouvent un peu partout, y compris dans le calcul de la production des richesses. Et en tout cas, ça en dit long aussi sur les croyances et les représentations du personnel des hautes administrations françaises, qui se base sur rien de scientifique finalement pour dire si l'un ou l'autre peut être comptabilisé dans la comptabilité nationale. C'est pour ça que les choses sont si longues à changer dans une société. C'est parce que finalement, c'est pas que des politiciens réactionnaires ou archaïques ou qui ne veulent pas entendre, mais finalement on s'aperçoit que c'est toute la chaîne de l'administration qui est concernée, quoi. Voilà.
Ouais.
Musique ?
Juste un petit coup en Tunisie avant, non ?
Ah bah, si tu veux.
Juste pour se donner le sourire.
Si tu veux.
Puisque là-bas, c'est le ministre de la Justice.
Alors, juste pour... Quand même, je trouve que ça aussi, c'est un peu c'est anecdotique, mais ça en dit long. C'est pas dans Le Monde, c'est pas dans Le Figaro, c'est pas dans Libé, c'est même pas dans un journal tunisien classique, c'est dans businessnews.com qu'on apprend ça. Cette nouvelle là dont tu vas nous parler tout de suite.
Bah, donc c'est le ministre de la Justice tunisien, hein, Hafed Ben Salah, qui intervient sur les ondes de Radio Express où il a annoncé un projet de loi portant sur la consommation des stupéfiants, sur le cannabis notamment. Voilà, ce changement se fera au niveau du chapitre des peines qui seront concernées par les réductions lorsqu'il s'agit d'un consommateur débutant et qu'il n'a consommé qu'une fois. Voilà, donc c'est juste un projet de loi pour l'instant, mais ça devrait aboutir voilà, sans doute.
La circulaire d'Elisabeth Guigou de 1999 est en passe d'être mise en place en Tunisie, en fait. C'est ni plus ni moins que ça, quoi.
Voilà, sachant que ce qui est marrant, c'est quand on regarde, il est ministre de la Justice et aussi il est ministre des Droits de l'Homme.
Oui, bon.
Ouais, ça, c'est une petite nuance, mais peut-être qu'elle a son importance, puisque le fait que les utilisateurs de drogue en soient interdits est quand même totalement illégitime.
Voilà.
Qu'est-ce que je voulais finir? Oui, il y a eu une grâce présidentielle aussi en Tunisie à l'endroit des consommateurs qui n'ont pas de casier judiciaire et qui n'ont consommé qu'une seule fois du cannabis. Donc leur libération intervient après 2 mois d'emprisonnement. Donc c'est dire que les peines doivent être assez lourdes en Tunisie.
Sans doute.
Voilà, voilà. Donc là, je vais vous passer un truc, c'est bizarre, ça s'appelle Goa Sativa, on l'écoutera sans doute pas en entier, parce que ça nous amènerait jusqu'après l'émission. Ça s'appelle Sativa 58.
Thank you. de la mise à nu. Un des captifs de la machinerie rentre chez lui fourbu. À chaque repli de son esprit en fourbie, martèle la cadence de la mécanique désasservie. L'allure décharnée, la mine endurcie, transpirant à la fatigue telle une litanie. À ce jour, un type étourdi, au zéro répété, se contemple à la lumière fragmentée du faisceau franc et insoumis. Projection insatiée de son imagerie meurtrie. La main graisseuse et neuse, froissant son plastron, au double de sa paume est un miroir profond. Qui sait ce que ses doigts composent et défont. Son reflet monochrome et foi résonne, l'angle noir agacé frissonne avant de cracher sa sueur sur sa besogne. D'un mouvement d'ouverture délicat, de bon augure, il compresse l'immédiat, altère la texture de douce fatra. Alors prompt à s'exiler du fief des aliénés, au contour satiné, aux axes gangrénés, à la dérobée, inhaler le connecteur mistral de son périple intérieur, et il a une nouvelle atmosphère corticale, séparée, épurée, et ensuite réunir, marcher sans discontinuer le pied, en point de mire, séparée, épurée, et ensuite réunir, marcher sans discontinuer le pied, en point de mire,
de l'interface nébuleuse à l'impasse, le substrat au mi-contraste s'embrasse, entrelace notre homme de son face, de ses frasques, enfin libéré de sa surface, de ce miasme, et d'un geste anguleux, lui malaxe la pensée. Déjà il a pour mieux se lever au pulsar de son climax, alité, les membres sommeillés, il séduit son espace aux courbes ouatées. L'œil à la gymnastique appliquée, lubrifiée d'habilité, consomme les clichés de l'insensé. Encensé du dispositif, les rouages de l'illusionniste s'actionnent d'une poussée bien huilée. Pour un tour de passe-passe au phénomène multiple, abracadabrante dynamique, numéro habile à l'émotion unique. Tournicotis, tournicotons, le flash de l'impulsion et sa part tenir pour de bon. Le contexte s'électrise, le climat se divise, la mutation s'organise pour le maquisard épanoui. Maintenant fini le jeu de l'engourdissement, avec maîtrise son corps perce l'infini. Un instant pour plusieurs vies, le trait d'union pour lui d'une ère d'euphorie.
Séparé, épuré, et ensuite réunir, marcher sans discontinuer le kiff en point de mire. Séparé, épuré, et ensuite réunir, marcher sans discontinuer le kiff en point de mire. Non, man,
ça vient.
Tu es sur ce good boy,
coupe, hein.
Bah, t'aurais pu couper plus doucement.
C'était Sativa 58 de Goa Sativa, ouais.
Voilà.
Voilà, un truc comme ça que j'ai trouvé par hasard.
Dans les nombreux disques
que l'on nous envoie à Canyon.
Dans les bacs du studio, voilà.
Au moins, ça fait un petit peu de fantaisie dans notre émission.
Oui, puis ça change un peu des morceaux qu'on passe habituellement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais caché les CD, comme ça au moins. Non, je les ai juste oubliés chez moi. Ça arrive aussi. Bien. Allez, on continue et on va bientôt terminer notre revue de presse du habituel du lundi. Vous êtes toujours en direct sur Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios sur Radio Canu et dans l'émission Cannabis Circus, émission du Circlon, tous les lundis soirs de 21h à 22h. Et maintenant, on va très vite, hein, on va parler de la future conférence internationale sur les cannabinoïdes en médecine.
C'est le 22
octobre. Ça sera le troisième. Voilà.
Voilà. Il va y avoir 150 professionnels de santé qui vont échanger sur les avancées pharmaceutiques dans l'utilisation du cannabis médical.
Et ça se tiendra à la faculté de médecine de Strasbourg.
Voilà, une conférence qui réunit des experts internationaux qui exposent leurs travaux.
Et cette information ne vient ni du Monde, ni de Libération, ni de aucun aucun journal classique, non, elle est sur le site de ufcmed.org, ufcmed.org, c'est l'Union française des cannabinoïdes en médecine, c'est ça que ça veut dire UFCmed. Voilà, je vous invite à vous rendre sur ce site internet ufcmed.org. Voilà, si ça vous intéresse, si vous êtes concerné directement ou indirectement, voilà, et que tout ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, que vous soyez malade, chercheur professionnel de santé, professionnel du secteur médico-social, patient, bref, tout ça, et que vous avez envie d'y participer, je vous invite à vous rendre sur le site de l'UFCM iCare. Et pour l'anecdote, c'est l'association dont Bertrand Rambaud est le président, Bertrand Rambaud, qui a été arrêté par la police à Strasbourg au mois d'avril parce qu'il avait un t-shirt où il y avait une feuille de cannabis dont on parlait tout à l'heure. Voilà, Bertrand Rambaud est de Strasbourg et c'est lui qui était le président, ou qui est toujours, je sais pas, le président de l'UFCM. Voilà, c'est tout. Donc le 22 octobre à Strasbourg. Ensuite, je vous ai mis.
Ah, c'est gentil, une page de Sciences et Société.
J'avais mis dans la rue de presse
cette superbe carte en noir et blanc où on a du mal à savoir qui est qui.
C'était pas pour la carte que j'ai mis, c'était plutôt pour le texte, même si c'est écrit petit et
voilà,
qu'il n'y en a
moi,
pas beaucoup.
Pour
mais
moi,
bon.
C'est illisible. Moi,
y a une seule chose. Des lunettes, pourtant, à quoi elles te servent ?
Ce que j'ai aimé là-dessus.
Pas vrai, ça.
C'est en France seul usage thérapeutique est autorisé après 60 ans d'interdiction. Puisque c'est vrai, ça m'a permis de me le rappeler, c'est en 1953 que le cannabis ou le chanvre a été enlevé de la
pharmacopée nationale.
Française, nationale. Et donc elle a été interdite, y compris au niveau médical, à partir de 1953. Bon, il y avait l'aspirine, il y avait à peu près tout ce qu'on avait trouvé. Et on redécouvre en fait ce à quoi servait le cannabis avant, puisque c'était quand même un médicament déjà jusqu'en 1953.
Alors, vu que t'es dans les dates et que t'es dans ce petit bout de graphique en bas à gauche, quand même, entre 1953 et 1999...
Il ne s'est rien passé.
C'est rien passé, c'est-à-dire qu'en 1999, pourquoi cette date ? C'est la première... C'est en 1999, la NSM, aujourd'hui, avant c'était l'AFSAPS, a décidé qu'effectivement, il pouvait y avoir exceptionnellement des autorisations temporaires d'utilisation de délivrés. Et la première a été délivrée en 2001. Donc ATU pour, par exemple, du Sativex, du Marinol. Et donc en 2001, la première ATU délivrée. Et entre 2001 et 2000, aujourd'hui, en fait, il y en a eu 74 uniquement. Alors qu'il y a plus de 2000 officiellement, enfin officieusement. Peut-être même plus de 5000 ou peut-être même plus de 10000, on ne sait pas. Personnes qui sont concernées par une pathologie qui pourrait être traitée avec des cannabinoïdes. Et il n'y en a que 74 d'autorisations temporaires d'utilisation qui ont été délivrées. Voilà. Et là, ah oui, par exemple, voilà, c'est écrit en gros 7000. C'est le nombre maximum de patients qui devraient accéder au traitement cannabique, oui, en France, avec la commercialisation du Sativex. On parle de 7000 personnes. Et 74 autorisations temporaires d'utilisation délivrées à partir de 2001. C'est quand même grave, quoi. Voilà. Enfin, en tout cas, même si, selon toi, c'est pas très lisible, voilà, je vous invite à vous rendre au moins sur le site de Sens et Vie, la rubrique Sens et Société, ou alors à vous le procurer dans les kiosques. C'est le Sens et Vie d'octobre, de ce mois.
D'accord.
Voilà. Et en tout cas, c'est très intéressant. Même si c'est écrit petit.
Voilà, après la science, on va revenir aux journaux. Tout à l'heure, on avait ce business. Maintenant, on a Zone Bourse.
On avait quoi?
Business
News. Ah oui.
Business News.
Alors, et là, c'est zonebourse.com qui nous parle de choses super intéressantes. Alors, mais très inquiétantes, je trouve.
Du 22e du Century Group.
22nd Century Group INC. Voilà. Incorporated. Donc cette filiale, en fait, enfin cette entreprise a annoncé que la filiale en propriété exclusive de la société Botanical Genetics a conclu un accord de licence internationale avec Anandia Laboratories, une société spécialisée dans la biotechnologie des plantes et basée à Vancouver, accordant à 22nd Century Group les droits exclusifs aux États-Unis pour 4 gènes requis pour la production de cannabinoïdes dans la plante de cannabis.
Voilà, donc ça, c'est des gens qui parient sur l'avenir.
Bah, qui sentent qu'il y a un business en potentiellement en plein développement sur la question du cannabis et des cannabinoïdes. Et il y a une boîte hein, qui s'appelle Anandia. Alors pourquoi Anandia? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, il faut savoir que dans le cerveau, il y a des anandamides. Et que c'est pas pour rien, cannabis, Anandia, enfin, voilà.
Oui.
Ils sont très au fait du champ lexical
du cannabis. Fait, cette technologie a priori propriétaire donc permet de modifier les niveaux de cannabinoïdes dans le cannabis. En résumé, donc cette technologie permet d'augmenter la production et la teneur de l'ensemble ou une partie de certains sous-ensembles de cannabinoïdes dans la plante du cannabis. Ça permettrait aussi d'éliminer des cannabinoïdes dans des variétés de chanvre et de modifier le profil des cannabinoïdes, pourcentage de la teneur de chaque cannabinoïde par rapport à leur teneur totale de tous les cannabinoïdes, afin donc de produire des variétés uniques de plantes de cannabis dans le secteur de la marijuana médicale.
Ça fait un peu penser à ce qu'ils font en Israël, en fait.
Ah, je pensais tout à fait à ça. Alors, je ne sais pas comment, eux, ils ont fait leur truc, si c'est avec ces moyens-là ou pas. Mais ils peuvent aussi avoir acheté cette licence, hein, puisque là, c'est juste pour les États-Unis que Anandia l'a utilisé.
Alors, en tout cas, ça leur donnerait les droits exclusifs avec Anandia sur cette technologie, que ce soit aux États-Unis et au Canada. Et d'ailleurs, Anandia conserverait les droits exclusifs au Canada.
Voilà, donc on apprend aussi que grâce à ce groupe, ils ont pas mal travaillé sur le génome du cannabis, où ils ont séquencé environ 30 000 gènes qui composent le génome du cannabis. Il rappelle que les cannabinoïdes, dont on a parlé tout à l'heure, donc qui pourraient transformer donc le pourcentage de cannabinoïdes. Donc là, il nous en parle de quelques-uns. Hein. On connaît le phytocannabinoïde delta 9 tétrahydrocannabinol, enfin le THC, celui-là
on connaît
bien, mais sinon il y en a d'autres. Donc on parle du cannabidiol,
le cannabidiol, CBD, oui.
Cannabidiol, le CBD, le cannabigerol, le CBG, le cannabichromène,
le CBC, ouais.
Le cannabinol,
bon, CBN, ouais.
Celui-là on connaît bien.
Et alors là, la tétrahydrocannabivarine, THCV.
Ouais, elle est pas mal celle-là, ouais. Aussi. Hein.
Qui tous peuvent avoir des applications médicales indépendamment ou en combinaison avec d'autres cannabinoïdes.
Voilà,
très intéressant.
Donc en tout cas, on va peut-être pas. C'est un petit peu juridique. Moi, bon, ils s'expliquent un petit peu. C'est bon, ils ont fait donc une sorte de pari sur l'avenir en imaginant tout ce qu'ils pourraient faire et comment ils pourraient gagner de l'argent. Donc évidemment, ils parlent toujours au conditionnel et dans perspective, mais voilà, clairement, c'est un pari sur l'avenir en espérant que
non mais que les c'est un pari gagné.
Que c'est les ça législations qui changent et qu'ils puissent se faire beaucoup d'argent.
Non seulement c'est un pari gagné déjà, ils vont se faire beaucoup d'argent, et comme on a en France encore une fois des lois pourries à ce niveau-là, nous on va acheter les produits que eux auront mis au point et que qu'on paiera, quoi, parce que en France on n'a pas été capable de financer de la recherche et développement avec des fonds publics et des labos d'État qui auraient pu permettre justement de mettre au point tout ça et de les distribuer aux patients à des prix modiques, voire gratuitement. Voilà, c'est encore... C'est à désespérer, quoi, franchement. Voilà, bon, on va se quitter là-dessus. Avant de nous quitter, on va encore une fois vous annoncer nos coordonnées du Cirque Lion. BP 93 043 69 605 Villeurbanne Cedex. Vous pouvez nous téléphoner au 06 11 53 10 07, nous écrire un petit mail. cirque-lyon@no-log.org. Mais non, laisse-moi finir. Voilà, allez. On a un site internet. Non, on n'a pas fini. www.cirque-lyon.fr. Et voilà, on vous souhaite une bonne soirée. Et maintenant, c'est Chasseur de Son. À la semaine prochaine.
Ah, parce que les Chasseurs de Son, il est en train de chasser autre chose, là, maintenant.
Eh ben, il avait qu'à être à l'heure. Qui part à la chasse perd sa place.
Allez, ciao à tous. À lundi prochain.
À toutes.
Et à tous.